Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous jusqu'à midi, c'est votre magazine bien-être feel good. Alors justement, avec notre question du jour, on vous veut le plus grand bien aujourd'hui, la voilà. Vous aussi, êtes-vous toujours fatiguée? D'ailleurs, comment ça va de ce côté-là, Julia?
Je dirais simplement que les vacances vont bien finir par arriver, heureusement, mais rassurez-vous, je suis toujours en forme à vos côtés sur Europe 1. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur cette fatigue, mais vous savez, cette fatigue chronique, celle qui pèse sur les épaules de certains. On verra d'une part ce qu'il explique et surtout, grâce à nos experts, on vous donnera des conseils pour sortir de cette spirale, pour vous soigner, y compris grâce à ce que vous mangez. Pour détailler tout cela, nous recevrons le docteur Julie Cossera. Elle est médecin interniste à Paris, ainsi que le nutritionniste Raphaël Grumman.
Ensuite, à 11h45, il y aura notre partie tendance. Tout d'abord avec notre coach Anouk Garnier, on va découvrir l'intérêt de s'entraîner avec un kettlebell. C'est un poids traditionnel russe et apparemment c'est le nouvel outil à la mode pour muscler l'ensemble du corps. Et puis à la fin de cette émission, Estelle Quilici, décoratrice d'intérieur, nous rejoindra. Elle va nous apprendre comment dresser une belle table estivale sans forcément dépenser des fortunes. Vous l'entendrez, il y a des tas d'astuces déco qui vont ravir vos convives lors de votre prochain barbecue.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Notre question du jour, je vous la rappelle, vous aussi êtes-vous toujours fatigué? Oui, eh bien, vous êtes au bon endroit et on va peut-être commencer par demander conseil à celui qui ne manque jamais d'énergie pour nous faire sourire tous les matins. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, mais parce que j'écoute votre émission justement et je suis en pleine forme à chaque fois. On va parler aujourd'hui de la fatigue chronique. J'ai pas les solutions, si ça va pas, je pourrais vous proposer un petit cours de yoga. Mais vu ma souplesse, ça va être compliqué. Il faut savoir que les troubles justement de la fatigue chronique provoquent justement alors des troubles de la mémoire, des difficultés à se concentrer, une mauvaise gestion du stress, des vertiges, des troubles du sommeil, etc., etc. Donc, comme je n'ai pas la solution, j'ai décidé de faire autre chose et j'ai décidé de jauger votre fatigue. Vous allez pouvoir jouer avec moi. Voici les 9 choses que si vous faites, vous êtes vraiment, vraiment fatigué. Je veux savoir combien vous en avez sur les 9.
Voici, en exclusivité mondiale, sur Europe 1, les signes qui vous montrent qu'il est temps de prendre quelques jours de repos.
Le premier signe, on va voir si vous l'avez, c'est quand vous mettez votre téléphone à charger et au bout d'une heure, vous vous dites « Ah, bah, je ne l'ai pas branché finalement ».
Ah oui, tout le temps.
Ça jamais. Arrive, attention, jamais, donc 1-0 directement. Deuxième signe, c'est quand on dit « Bonsoir » à 9h du mat à la boulangerie.
Ça c'est Julia. Je le dis même à la télévision.
Julia est à 2-2 pour l'instant. Si vous mettez plus de temps à choisir un film le soir qu'à le regarder.
Oh, moi, je dors avant même
d'avoir avant même de choisir, très bien. Bon, bah, vous êtes à 4 points sur 3, c'est pas mal. Si vous cherchez vos lunettes alors qu'elles sont sur votre tête.
Ah, ça, ça peut m'arriver.
Ça, ouais. Ça arrive à tout le monde.
Moi, je cherche mon portable pendant que j'appelle.
Ah, ça arrive aussi. Alors, il y a pire, il y a aussi si vous cherchez vos clés alors qu'elles sont sur votre tête. Là, c'est une grande fatigue. Attention, point numéro 6, si vous êtes en voiture, tranquillement, arrêtez, que vous attendez que le stop passe au vert. C'est un signe de fatigue. Mauvais, ça. Ouais. Il y a également, alors ça je l'ai fait une fois à la station-service, vous savez quand on nous demande de payer en amont, c'est-à-dire d'aller payer, de revenir, de partir et de se dire « je n'ai pas fait le plein ».
Ça m'est arrivé,
véridique.
Et ça c'est parce que vous êtes généreux.
Je pense. Et le plus important, c'est quand vous oubliez un truc que vous avez fait il n'y a même pas 5 minutes.
Ça
c'est très important. Et sinon, je terminerai par celui-là, quand à la boulangerie vous dites « bonsoir » alors qu'il est 9h du mat.
Ça aussi c'est possible.
Je l'avais déjà fait, non?
Bah oui, vous l'avez.
Ah bah il est temps que j'aille me coucher.
Je n'osais pas vous le dire, je dis c'est la première.
Fatigue chronique.
Merci beaucoup Clément. On va à présent entrer plus en détail dans notre thématique du jour sur la fatigue grâce à nos invités. Alors en studio avec nous, il y a déjà le docteur Julie Cossera. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin interniste à Paris. À côté de vous, je présente aussi Raphaël Grumman. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes nutritionniste. Docteur Cossera, je me tourne d'abord vers vous. Je viens de dire que vous étiez médecin interniste, une spécialité qui est peu connue. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer concrètement c'est quoi la médecine interne?
Alors effectivement, c'est une spécialité qui n'est pas très connue parce que son appellation est plutôt hermétique. En fait, les médecins internistes, ce sont des médecins qui sont essentiellement hospitaliers et qui s'occupent de patients qui ont des pathologies qui sont au carrefour de toutes les spécialités, donc qui ont des symptômes qui relèvent de beaucoup d'organes et qui nécessitent une expertise plus complète que celle de la médecine d'organes. Bien sûr, on travaille beaucoup en collaboration avec les spécialistes, mais nous, c'est nous qui faisons, au terme de tout ça, une évaluation complète avec un diagnostic. Et notre rôle, c'est beaucoup de faire des diagnostics et de s'occuper des maladies qui touchent de nombreux organes.
Bon, je permets de vous rajouter que vous êtes la crème des médecins, mais ça c'est moi qui le dis. Vous êtes en fait un peu comme le Dr House dans la série, hein,
alors,
c'est ça ?
Alors effectivement, c'est quelque chose qui évoque une activité dans la plupart des cerveaux de nos contemporains. Mais le Dr House est un peu différent parce qu'il est particulier,
il est
sa personnalité.
Bon,
non, c'est pas qu'il est moins bon, mais il est un peu cynique. Il aime pas tellement les gens en fait, alors que nous on aime les gens et on s'intéresse en fait à toutes les dimensions de l'être humain, pas uniquement une dimension très axée sur un organe, et on fait une synthèse avec aussi le contexte psychologique.
Alors on va parler ce matin de la fatigue chronique, mais déjà Raphaël Gruman, on sent les Français fatigués, et d'ailleurs il y a un baromètre Odoxa qui le confirme, puisque 2 Français sur 3 se disent fatigués en ce moment. Ce sont des chiffres ou pas qui augmentent?
Alors oui, moi je trouve que ça augmente un petit peu, je le vois dans mes consultations, c'est des demandes que j'ai de plus en plus de mes patients qui me relève ça comme principal problème. Donc fatigue qui va engendrer d'autres problématiques. On en parlait tout à l'heure, des problèmes de concentration, de mémorisation, une agressivité aussi qui est difficile à gérer, des problèmes de poids qui peuvent s'en suivre. Donc oui, je le vois au quotidien.
Et d'ailleurs, dans ce baromètre, on voit que les Français ressentent surtout une fatigue entre 14h et 16h. C'est normal, Raphaël, d'être fatigué à cette heure-là? Comment on l'explique?
Déjà, il faut savoir que l'alimentation sur le repas du midi est rarement très équilibrée, souvent prise sur le pouce, pas suffisamment, soit consistante, soit trop consistante, avec des aliments trop gras, trop caloriques, qui vont en fait saturer la digestion, saturer le foie notamment, nécessiter du coup un travail de digestion plus important qui va épuiser l'organisme. C'est pour ça qu'on a ce fameux coup de barre entre 14h et 16h qui est assez important.
Et ça, c'est lié à ce qu'on mange?
Souvent à ce qu'on mange, oui.
Docteur, j'ai l'impression qu'on est tous régulièrement fatigués, mais à partir de quand réellement on parle de fatigue chronique? Il faut par exemple être fatigué, je ne sais pas, depuis combien de semaines, combien de mois? Et c'est quoi les symptômes qu'on retrouve le plus souvent en tout cas?
Alors, la fatigue, c'est physiologique, donc tout le monde connaît la fatigue au fil des journées, au terme d'un effort important, soit physique, soit psychologique. Et cette fatigue-là, elle a comme particularité de limiter le reste de nos activités. Et elle diminue au repos. Et quand on a une nuit de sommeil réparatrice, on récupère et on recommence le lendemain matin avec la même énergie. Ça, c'est la fatigue physiologique. Et la fatigue du syndrome de fatigue chronique, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est une fatigue qui n'est pas soulagée par le repos et qui s'accompagne d'un cortège d'autres symptômes qui peuvent aboutir à une invalidité à la fois personnelle, sociale et professionnelle. Et en général, on estime qu'il faut une évolution dans au moins 6 mois pour parler de syndrome de fatigue chronique.
Et vous parliez d'autres phénomènes, c'est quoi par exemple?
Alors justement, on en parlait là, mais il y a énormément de signes d'accompagnement qui sont des difficultés à se concentrer, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir mal à la gorge, la sensation d'avoir des ganglions qui sont anormaux dans le cou. On peut avoir un tout petit peu de fièvre. Nous, on parle en médecine de fièvre au-dessus de 38,2 de température. Et là, les patients ont jusqu'à 38 et se trouvent fébriles et ressentent cette sensation de fièvre.
C'est un motif fréquent de consultation ou pas chez vous?
Alors, ça l'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas forcément beaucoup de patients qui venaient me voir directement pour ça.
Et là, je pense un nutritionniste, en général, on n'y va pas forcément parce qu'on est fatigué. Enfin,
pas forcément pour ça, mais j'ai l'impression que vraiment, depuis l'épisode Covid, il y a une fatigue qui s'est installée de manière générale au niveau de la population, que ce soit une fatigue liée à des organisations, peut-être de l'alimentation, ou aussi fatigue mentale, morale, en fait, avec tout ce qui s'est passé. Et donc, les personnes ont du mal à repartir, en fait.
Docteur, on sait combien de personnes sont vraiment atteintes par ce que vous avez décrit juste avant, donc ce syndrome de fatigue chronique? Alors, ça touche quelle part de la population?
Ça touche environ 150 000 personnes en France, à peu près. Il faut quand même revenir sur le diagnostic de syndrome de fatigue chronique parce que c'est une entité vraiment qui est assez bien caractérisée et elle a ce diagnostic qui est posé au terme d'un certain nombre d'examens. Si vous avez quelqu'un qui revient pendant plusieurs mois en disant qu'il est fatigué, qu'il ne peut plus se lever de son lit, aller travailler, même avoir une vie sociale, bien évidemment, avant de parler de fatigue chronique, il faut faire le diagnostic et pour ça, faire la démarche médicale qui est rigoureuse.
Et on va la détailler dans un instant. Vous restez avec nous ce matin dans Bienfait pour vous. On tente d'en finir avec le syndrome de fatigue chronique. Alors chronique ou pas, en ce moment, 2 Français sur 3 se disent fatigués. Que peut-on faire dans son quotidien pour arranger cela facilement? On vous donne tous nos meilleurs conseils anti-fatigue dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali
Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'interroge autour de cette question. Vous aussi, êtes-vous toujours fatigué? On en parle avec le nutritionniste Raphaël Grumman et le docteur Julie Cossera. Je rappelle que vous êtes médecin interniste à Paris. Docteur, quel est le profil, s'il y en a un, des 150 000 à peu près français, vous avez dit, qui sont concernés par la fatigue chronique? Je crois que vos patients, étonnamment, sont assez jeunes, en fait.
Alors, effectivement, c'est une pathologie qui touche plutôt une tranche d'âge entre 30 et 50 ans. Et dans cette tranche d'âge, une grande prédominance de femmes.
Ah oui.
Et c'est quoi la charge mentale, vous pensez?
La charge mentale joue, certainement, effectivement. Mais pour l'instant, c'est les constatations épidémiologiques dont on dispose.
Et vous avez également constaté que ce sont surtout des personnes qui étaient très actives avant. Comment ça s'explique, ça?
Alors, pas forcément très actives avant, mais le fait d'avoir... effectivement, quelquefois, on voit une rupture dans la vie de personnes qui étaient effectivement très actives et qui étaient des sportifs de haut niveau, qui brutalement, il y a un événement déclencheur et finalement, ils commencent à ralentir leur activité et à ressentir la fatigue et qui, en quelques semaines, s'installe et les rend incapables de faire ce qu'ils faisaient auparavant.
Quand vous dites des grands sportifs, je crois qu'il y a même des exemples de cas de marathoniens, donc plutôt
oui,
des sportifs,
ça,
même de l'extrême, en fait.
Des gens qui font du triathlon, du marathon.
Comme s'il y avait un capital fatigue qu'ils ont peut-être épuisé ou...
Je crois que ça, c'est une question d'expérience personnelle, ouais. Ça peut arriver. Donc, en fait, c'est tout un chacun.
Ouais. Et ce sont aussi, je crois, souvent des patients qui ont subi des traumatismes dans l'enfance. Comment c'est lié, alors, dans ces cas-là?
Alors, en fait, en médecine, on a deux grands types de pathologies. On a les pathologies qu'on appelle organiques, qui sont liées à un dysfonctionnement bien identifié des organes, avec des résultats sanguins anormaux, des radios anormales qui permettent d'aboutir au diagnostic. Et puis, on a un certain nombre de pathologies qu'on appelle des pathologies fonctionnelles, qui sont en fait des pathologies pour lesquelles on n'a pas d'explication physiopathologique claire. Et le syndrome de fatigue chronique fait partie de ces syndromes fonctionnels, mais il y en a d'autres, comme la fibromyalgie, comme le syndrome de l'intestin irritable, comme certaines céphalées, certaines douleurs thoraciques. Mmh. En fait, il y en a un peu dans chaque spécialité, et ça représente même à peu près 30% des consultations de chaque spécialiste ou interniste. Oui. Et en fait, on se rend compte que ces pathologies fonctionnelles, elles surviennent plus fréquemment chez les gens qui ont eu une enfance traumatique.
Bon, Raphaël, la fatigue, d'un point de vue général, là, pour le coup, ça peut avoir des répercussions sur beaucoup de choses dans notre vie, et notamment jouer sur notre humeur, vous en avez un peu évoqué le cas tout à l'heure, et également sur notre sommeil, sur la qualité de notre sommeil. Comment ça s'explique, ça?
En fait, tout simplement, lorsqu'on va avoir une fatigue qui va s'installer, le sommeil va être aussi déréglé. Il faut savoir que pendant la nuit, il y a beaucoup de rééquilibrages d'hormones qui ont lieu, notamment les hormones de l'appétit, d'autres hormones également, qu'on appelle aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va être perturbée par cette qualité de sommeil en moins. Donc en fait, tout ça va nuire à notre qualité de sommeil et ça va avoir un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va être fatigué, on va moins bien dormir, le fait de moins bien dormir, on va être fatigué et donc du coup, ça va s'enchaîner.
Docteur Cossera, cette fatigue chronique, on pourrait penser en tout cas que c'est juste un petit peu de flemme, mais je crois que c'est bien plus grave en fait. Ça empêche vos patients de faire des choses simples comme faire la vaisselle, dont c'est à ce point-là vraiment?
Oui, effectivement, dans certains cas, il y a une incapacité même à tenir debout, hein, ce qu'on appelle une intolérance à l'orthostatisme.
Mais ce n'est pas une dépression, ça? Comment
Alors,
faire la différence?
Le syndrome de fatigue chronique survient chez des patients qui n'ont pas forcément de troubles psychologiques, mais néanmoins, il y a deux pathologies psychologiques qui sont l'anxiété importante et la dépression qui sont très fréquemment présentes. Et c'est important de les dépister parce que ce volet-là de la prise en charge thérapeutique est absolument nécessaire dans ce cas-là.
Donc si je comprends bien, docteur, on peut souffrir d'une fatigue chronique et pas du tout être dépressif, être en pleine
forme. Absolument, on peut avoir des troubles fonctionnels de tous ordres sans avoir forcément de personnalité pathologique.
Mais au moins, j'imagine que ces patients, ils ont souvent une longue errance thérapeutique médicale. Ils ont du mal, on a du mal à poser ce mot syndrome de fatigue chronique. Donc de ne pas être compris par la médecine et par les médecins, parfois ça peut peut-être les conduire à la dépression. Alors, s'ils sont non diagnostiqués, non traités pour ça.
C'est très juste et c'est un des grands problèmes de la prise en charge de ces pathologies qu'on appelle fonctionnelles. C'est que déjà, il y a parfois un rejet du corps médical parce que finalement, les médecins disent « Pourquoi venez-vous me voir alors que vous n'avez rien ? Tous vos examens sont normaux, vous n'avez rien, donc vous vous plaignez à l'excès. » Et en fait, il faut savoir que ces pathologies fonctionnelles, elles sont responsables d'une infirmité, d'une invalidité aussi importante que les maladies organiques. Et donc, à ce titre, il faut bien évidemment les prendre en charge. Et la première phase de cette prise en charge, c'est de reconnaître la souffrance des autres et de leur dire je comprends bien ce que vous, j'entends ce que vous me dites, je comprends ce que vous me dites. Et on va essayer de trouver des solutions.
Alors, de façon générale, aussi, on peut être fatigué quand on suit certains régimes parfois trop restrictifs, Raphaël. Bon, en même temps, quand on cherche à perdre du poids, c'est obligatoire ou pas passer par là ?
Non. Au contraire, si on a une fatigue qui est générée par un régime, c'est que le régime n'est pas adapté à la personne.
On peut maigrir, perdre du poids, en tout cas, sans être fatigué. Bien sûr.
Mais même, en fait, le fait de perdre du poids pour certains patients en surpoids peut améliorer l'état de fatigue parce que le surpoids génère aussi une fatigue supplémentaire parce que ça fatigue les organes de manière générale, c'est-à-dire que le foie va surtravailler, la digestion, etc. Donc le fait de perdre du poids doit améliorer la qualité de vie des patients qui ont une fatigue générale. Donc c'est au contraire, c'est vraiment bénéfique de perdre du poids pour certains patients.
Et comment ils mangent d'ailleurs ces patients très fatigués, qu'ils soient fatigués chroniques, ça on en parle aussi, mais des gens qui sont fatigués en ce moment même pendant plusieurs semaines, on mange plus quand on est fatigué, j'aurais l'impression en tout cas. Mais...
Oui, effectivement, c'est ça, il y a une surconsommation, c'est-à-dire qu'on va avoir des aliments qui vont être un bol alimentaire qui est dit plus calorique pour compenser cet état de fatigue, mais aussi sous forme de grignotage, c'est-à-dire que le corps va appeler les aliments à des heures différentes, et donc c'est ça qui peut générer aussi une prise de poids pour compenser un état de fatigue. On va se mettre à grignoter dans l'après-midi, dans la soirée, dans la matinée pour essayer de se recharger son corps en énergie,
mais
malheureusement c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que multiplier les prises alimentaires va générer finalement des dépenses, une fatigue supplémentaire.
Et puis il y a des aliments je crois qui peuvent nous fatiguer. Moi, je sais que, par exemple, quand je mange trop gras ou trop sucré, j'ai envie de dormir. Qu'est-ce qui explique finalement ce phénomène ?
En fait, ces aliments gras ou trop sucrés ralentissent la digestion. Plus un aliment va être gras, plus il va rester longtemps au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Donc, ça veut dire que le système digestif va puiser de l'énergie pour digérer ces aliments. Donc, si vous restez avec un aliment qui va être trop gras, par exemple, je pense aux fritures, les aliments qui sont frits, les graisses cuites sont très longues à digérer. C'est aussi le cas pour les féculents qui sont lourds au niveau de la digestion, avec en fait un travail d'enzymes qui va être beaucoup plus progressif et qui va fatiguer encore plus l'organisme.
Et ça crève, bien sûr. Ouais, donc ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir. On a le droit de manger une petite friture de temps en temps, quand même.
Bien sûr, il faut pas
dire ça parce qu'il y a des hamburgers à midi.
Mais voilà, manger un burger à midi ou un gros plat de pâtes le midi en disant je vais me recharger en énergie, je vais prendre des pâtes. Mais non, au contraire, les pâtes vont endormir parce que ça va être assez lourd au niveau de la digestion.
Et qu'est-ce que je mange alors pour être en pleine forme à midi plutôt que le burger de la cantine?
En fait, il vaut mieux une meilleure répartition des aliments. C'est-à-dire qu'il faut des glucides complexes de préférence. Donc, vous allez l'avoir sous forme de riz complet, de lentilles, etc. Un peu de protéines, un peu de légumes. Mais en fait, c'est la proportion de ces aliments qui va être importante. Pas d'excès, en fait, en tout genre.
Et cette fatigue chronique, docteur, dont certains sont atteints, c'est un symptôme qui nous tombe dessus brutalement ou c'est plutôt quelque chose qui va s'installer progressivement ?
En fait, les deux sont vrais et dans 50% des cas, c'est assez brutal et les 50 autres restants, c'est progressif.
Et quand c'est brutal,
il peut y avoir des facteurs
déclenchants,
enfin disons préliminaires, et parmi lesquels des syndromes infectieux, une infection virale. Parfois c'est une intervention chirurgicale, parfois c'est une naissance, et puis parfois il n'y a pas de facteurs déclenchants.
Parce que j'essaie de faire la différence avec un burn-out, c'est pas du tout la même chose.
Alors c'est pas du tout la même chose, mais ça aboutit parfois à la même chose. Dans le burn-out, il y a tout un contexte de travail qui est un peu tout à fait particulier. Mais les symptômes du burn-out peuvent être ceux de la fatigue chronique.
Oui, ils disent un matin, je n'ai pas pu me lever, c'était fini, le travail, plus d'envie, de rien, d'énergie. Avant de diagnostiquer donc un syndrome de fatigue chronique, docteur, j'imagine que vous cherchez une autre cause avant. Vous avez dit qu'il y a pas mal d'examens à faire. Quelle maladie, par exemple, peut expliquer une grosse fatigue comme ça, longue fatigue? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup.
Il y a énormément de maladies, beaucoup de maladies endocriniennes, par exemple l'hypothyroïdie. C'est une maladie très facile à diagnostiquer, mais ça donne exactement ce tableau-là. Les troubles du calcium, les troubles du sodium.
Et donc, vous cherchez tout ça chez ces patients-là, fatigue chronique. Une fois que vous avez exclu, vous pouvez dire syndrome de fatigue
chronique. Oui, mais c'est une prise en charge qui est assez élémentaire et qui est assez rapidement résolue. D'abord, il faut savoir s'il y a des signes inquiétants chez les gens qui se plaignent de fatigue. S'ils ont perdu 5 kilos, 10 kilos, là, évidemment, les drapeaux rouges sont là et on va être très vigilants. S'il y a des anomalies biologiques aussi. Et il faut surtout savoir écouter le patient, l'examiner. En médecine, c'est très important, l'examen clinique. Et puis faire les examens nécessaires, mais pas en faire trop non plus. Parce qu'après, le risque, c'est de tomber dans une spirale infernale où le patient va dire « mais vous ne savez pas ce que j'ai, je ne comprends pas ce que j'ai, donc il faudrait peut-être me faire cet examen en plus ». Et puis comme en médecine, on a des moyens de diagnostic assez puissants, on découvre des anomalies qu'on appelle maintenant des fortuitomes, qu'on découvre fortuitement, qui correspondent à rien sur le plan clinique.
Et qui vont et inquiéter après, aussi.
Qui vont générer d'autres examens et on risque de tomber dans les iatrogénies et les accidents.
Et docteur, quand on souffre de fatigue chronique, il y a évidemment, on en parlait tout à l'heure, déjà un peu des conséquences sur la vie sociale. Certains s'isolent. C'est vraiment fréquent ce type de conséquences ?
Oui. Alors, le syndrome de fatigue chronique n'est pas extrêmement fréquent, il existe, et les gens qui ont des formes sévères s'isolent socialement absolument.
C'est-à-dire qu'ils refusent toutes les invitations.
Ils n'ont plus l'énergie pour sortir de chez eux, recevoir, faire leur vaisselle, exactement.
S'occuper de leurs enfants, parce que vous avez dit, c'est des gens jeunes en plus.
Absolument,
hein, souvent,
oui, on voit parfois des situations aussi extrêmes.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, bien fait pour vous. Continue dans un instant, on vous dit tout sur la fatigue ce matin, y compris la fatigue chronique, mais surtout, on vous explique comment en sortir. D'autres bons conseils arrive dans quelques minutes, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Je suis sûre que certains d'entre vous sont fatigués, sont crevés. Eh bien, c'est le cas de 2 Français sur 3 en ce moment et on en parle avec nos 2 invités pour trouver des solutions, des remèdes. Ils sont toujours avec nous, le nutritionniste Raphaël Grumman et le docteur Julie Cossera, médecin interniste à Paris. Alors, docteur, on a une question pour vous de Marie-Laure près de Bordeaux sur Facebook. Elle dit, vous nous avez dit tout à l'heure que ça touchait des personnes jeunes. Est-ce que les enfants peuvent être atteints de la fatigue chronique et si oui, pourquoi ?
Alors effectivement, c'est un tableau qu'on peut rencontrer chez les enfants. Moi, je ne suis pas pédiatre, donc ce n'est pas mon expérience, mais c'est connu dans la littérature scientifique. Pourquoi ? Probablement pour les mêmes raisons que pour les adultes et avec parfois aussi des atteintes très sévères, des déscolarisations, des enfants qui ne veulent plus se lever.
Mais pourquoi ils en sont arrivés à ce point-là, ces enfants Alors, comment on peut être crevé quand on est aussi jeune ?
Probablement, il y a un enchaînement de facteurs, parfois un facteur déclenchant, des causes psychologiques.
Le Covid, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Vous avez dit un épisode infectieux, mais on entend des gens après le Covid qui sont fatigués encore 3 mois après.
Alors, effectivement, dans les hypothèses infectieuses, parce qu'on a recherché beaucoup de causes, il y a eu le fameux virus d'Epstein-Barr, la maladie du baiser que tout le monde connaît, qui était la mononucléose, bravo, qui était générateur de formes de fatigue longue. Mais en fait, on s'est rendu compte que si on essayait de traiter ces virus, ça ne servait à rien. De la même façon, la maladie de Lyme, que tout le monde connaît, a été à l'origine de suspicions de tableaux très complexes, chroniques. On s'est rendu compte aussi que faire des traitements très prolongés pendant plusieurs mois n'amenait aucune amélioration. Et c'est pour cette raison-là qu'on pense qu'il peut y avoir, après une infection virale ou bactérienne, quelle qu'elle soit, un tableau qui s'installe, mais ça n'est pas en prolongeant le traitement spécifique qu'on aura une amélioration.
Docteur, une fois qu'on est diagnostiqué, qu'on a ce diagnostic de syndrome de fatigue chronique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a déjà un traitement, un médicament par exemple, qui pourrait donner un coup de peps à ces patients, où j'imagine que ce n'est pas si simple que ça.
Alors, ça n'est pas si simple. Et puis, on a parlé du diagnostic d'éliminer les maladies organiques. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est aussi de s'intéresser aux choses élémentaires. C'est le sommeil, l'alimentation, bien sûr. Bien évidemment, il y a les dépressions. Et enfin, il faut faire attention aux addictions. La consommation excessive d'alcool, toutes les addictions sont génératrices de fatigue. Donc ça, c'est la deuxième chose à éliminer. Avant de parler du syndrome de fatigue chronique et d'essayer de le prendre en charge.
Alors justement, vous parliez d'addiction, docteur Raphaël Grumman, quand on est fatigué, on a tendance à vouloir prendre un café, 2 ou 3, ou quelque chose de sucré pour se rebooster, mais je crois que ce n'est pas forcément le meilleur remède.
Mais non, parce qu'en fait, vous allez masquer en fait un état de fatigue très temporaire avec une prise de caféine, par exemple. Ça va avoir un effet booster, effectivement, sur le système cérébral où on va se sentir reboosté, mais ça va être très temporaire. Et puis ensuite, la fatigue va revenir et peut-être même de manière encore plus importante. Et donc, le fait de se doser en caféine comme ça tout au long de la journée, c'est pas une bonne solution. C'est-à-dire que ça masque simplement le problème, ça corrige que quelques heures la difficulté.
Vous conseillez les amandes. Alors, pourquoi les amandes ?
En fait, c'est surtout sur la collation, en fait, où ça va être intéressant de consommer ce type de produit-là, puisque ça va permettre d'avoir une petite dose d'énergie en milieu de journée. Donc, c'est important d'avoir une collation en milieu d'après-midi pour faire la transition entre le déjeuner et le dîner, puisqu'il y a un laps de temps qui est quand même suffisamment long, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Prendre une collation pour un adulte adultes, c'est pas interdit.
Mais combien d'amendes?
Bah, on parle d'une poignée d'amendes.
Julia, elle est plutôt sur 3 poignées. Loin, ouais, moi,
c'est ça. Une poignée d'amendes, ça fait environ un peu plus de 20, 23 amendes à peu près.
Ah, oui, donc
ça
fait quand même une belle poignée d'amendes. Mais vous dites amendes, ça peut être noix, noix de pécan. Est-ce que vous préférez les amendes?
Les oléagineux, d'une manière générale, sont intéressants puisque vont apporter des principes actifs intéressants, c'est-à-dire des bonnes graisses végétales qui vont venir nourrir le cerveau, des protéines végétales également. Donc c'est intéressant. Les amandes ont la propriété d'être peu grasses par rapport aux noix de cajou, cacahuètes ou autres. Donc c'est vrai que ça reste intéressant, encore une fois, pour un problème de digestion, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop calorique.
Et donc, est-ce qu'on peut les griller, les amandes grillées
ou... On peut les consommer grillées, ça ne va pas changer la teneur de l'aliment. Ou les consommer fraîches, c'est aussi très sympathique.
Docteur, on peut aussi conseiller, je crois, des médecines douces à ces patients qui souffrent du syndrome de fatigue chronique. Qu'est-ce qui peut, par exemple, leur apporter un bénéfice et qui a peut-être quand même montré quelques preuves scientifiques?
Alors, on ne va pas tant parler de médecine douce que d'un certain nombre de,
complémentaires,
de mesures complémentaires, voilà, c'est ça. D'une façon générale, les patients qui ressentent des bienfaits avec telle ou telle médecine, si elle n'est pas toxique, cette médecine, est libre à eux de la
ça
pratiquer.
Ça peut être la méditation, le yoga.
Alors, voilà, ça, c'est des techniques, effectivement, de relaxation qui sont très importantes. Il faut effectivement reprendre le mouvement. Ça, c'est vraiment le maître mot de la prise en charge. Et c'est ce mouvement-là qui doit les remettre dans la vie.
Alors, Raphaël, je reviens du côté de notre assiette au déjeuner.
Elle est obsédée par cette aspect-là.
Je suis obsédée par l'idée de bien manger, effectivement. Et pour garder la ligne que je n'ai plus, ou la retrouver, disons. Et puis aussi, pour ne pas être trop fatiguée, justement. Est-ce que pour ça, il faudrait aussi s'orienter vers du poisson, je crois, pour gagner de l'énergie? Pourquoi le poisson et pas la viande à midi?
En fait, la viande, ça va être tout simplement plus long à digérer que du poisson. Donc, ça peut surcharger le système digestif. L'important, c'est aussi de varier les types de protéines. Donc on peut avoir donc de la viande, du poisson, des protéines végétales aussi. C'est intéressant d'avoir cette variation. Donc par exemple des légumes secs comme les lentilles.
Ça pourrait être des sèches grillées là. Moi j'imagine en persillade. J'ai envie de ça là tout d'un coup.
Oui, pourquoi pas. Très
c'est
bien.
Pas vraiment du. Enfin, si c'est du poisson, mais
Disons que ça va être peu calorique, peu gras. Riche en protéines, donc très intéressant, avec plein de minéraux, du zinc, du sélénium, qui vont être aussi très importants pour l'organisme.
Et justement là, avec les grosses chaleurs qu'on vient de traverser, qui vont peut-être de nouveau revenir, quelle est votre assiette énergisante et rafraîchissante, idéale par exemple pour déjeuner au soleil?
On pourrait pourquoi pas faire une belle salade composée, mais bien composée, c'est-à-dire avoir une base de lentilles par exemple dans son assiette, avoir des légumes. C'est important d'avoir aussi beaucoup de légumes le midi, parce que ça va apporter de l'eau, de l'hydratation à l'organisme. Quand il fait très chaud, il faut s'hydrater aussi bien via la boisson que via les aliments. Donc consommer par exemple en dessert de la pastèque, c'est hyper intéressant pour recharger son organisme en eau, pour éviter une fatigue aussi qui pourrait être générée par une déshydratation.
Bon, quelques frites quand même de temps en temps.
Le midi au soleil, je ne sais pas si c'est la bonne solution.
C'est vrai, c'est pas
terrible. Ça passe toujours les frites au soleil ou en hiver, c'est pareil.
Docteur, pour les patients avec cette fatigue donc au long cours qu'on a bien décrit jusque-là, je crois que vous l'avez dit, il faut miser tout sur se remettre dans une activité physique. J'ai pas dit sport, j'ai dit activité physique. Mais comment on se réentraîne à l'effort justement et comment on se remet en selle quand on est épuisé comme ces patients-là? Ça doit être très difficile.
C'est tout à fait vrai. Il faut pas forcément parler de sport. Il faut parler d'une réadaptation progressive, parce qu'en fait, dans cette fatigue, il y a un phénomène qu'on connaît bien maintenant qui s'appelle le déconditionnement. Si vous avez une jambe dans le plâtre, vous allez constater qu'au bout de 6 semaines de plâtre, vos muscles ont complètement fondu. Et en fait, rester allongé sur son lit parce qu'on est fatigué, ça aboutit à la même chose que d'avoir un membre immobilisé. Oui. Et en fait, c'est très difficile de regagner cette masse musculaire. Et c'est pour ça qu'il faut demander et proposer des activités vraiment extrêmement progressif.
Qu'est-ce que vous proposez par exemple à ces patients, vous?
Toutes les gymnastiques, le tai chi, le qigong.
C'est doux, mais
c'est doux, et surtout de faire 5 minutes en plus chaque jour ou chaque période.
On parce y que va progressivement.
Voilà, si on se dit maintenant je me sens plus en forme aujourd'hui, je vais ranger mon placard, faire ma vaisselle, etc., et qu'on se donne une surcharge à ce moment-là, la fatigue secondaire est encore plus importante et va aboutir à un découragement.
Mais qu'est-ce que vous en faites, vous, de tous ces patients très fatigués? Alors, vous leur conseillez une activité physique, on a compris, douce, progressive, mais on leur donne des médicaments, on fait quoi?
Alors, on leur donne peu de médicaments parce qu'on essaye déjà de leur faire comprendre qu'on les a entendus, de dépister les troubles psychiques qui peuvent nécessiter une aide psychothérapeutique, et ça, c'est très important puisqu'il y a quand même très souvent sous-jacent une anxiété profonde ou une dépression. On leur conseille donc de reprendre cette activité, de lutter contre le déconditionnement.
Même pas quelques vitamines, rien du tout.
En général, la nourriture, suffit. Si elle est équilibrée, mais encore faut-il qu'elle soit équilibrée, elle est riche pour un Européen, un Français. qui n'est pas carencée par, pour des raisons sociales, la nourriture est satisfaisante, mais il faut qu'elle soit équilibrée, c'est très
important.
Vous
les remettez sur pied, ces patients malades chroniques, en mangeant mieux, on peut vraiment y arriver ?
On peut y arriver, bien sûr, parce que ça peut être aussi lié à un déséquilibre alimentaire, à des repas trop régulièrement sautés, à des carences liées à un mode alimentaire, par exemple. Je peux parler par exemple, des personnes qui sont végétariennes, véganes, qui vont... Ce n'est pas un problème d'être végétarien ou végane, bien au contraire, mais il va falloir bien équilibrer son alimentation, parce que si on supprime une protéine comme la protéine animale, il faut bien la substituer. Et si la substitution se passe mal, ça peut générer des carences et donc une fatigue complémentaire.
Et au bout de combien de temps vous arrivez à les remettre sur pied, vos patients, docteur ?
Alors, l'amélioration, elle n'est pas forcément très rapide, mais elle survient au bout de parfois plusieurs mois. Hein.
Mais on peut guérir ?
Ah oui, absolument.
Bon, une prise en charge globale, on l'a compris, pour ce syndrome de fatigue chronique, mais on peut s'en sortir, c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui.
Sortir, ouais.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. La fatigue, même quand elle est chronique, on peut s'en sortir. On vous a proposé quelques solutions ce matin.
Eh bien, merci. On va passer à présent à notre séquence tendance. Maintenant qu'on est moins fatigué, on va même peut-être se bouger un peu, doucement, hein, j'ai compris,
tranquille,
docteur. Grâce à la coach Anouk Garnier, elle va nous présenter l'intérêt sportif du kettlebell, un poids traditionnel russe qui permet de muscler l'ensemble du corps. Et puis Estelle Quilici, décoratrice d'intérieur, va nous donner, elle, ses astuces de pro pour dresser une belle table estivale sans casser la tirelire. Tout ça, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui fait du bien. Nous sommes avec vous jusqu'à midi. Alors à présent, c'est notre séquence tendance qui démarre et il y a déjà une petite nouvelle dans la bande ce matin. C'est vous, Estelle Quilici, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes décoratrice d'intérieur et aujourd'hui, vous allez nous donner des astuces plutôt d'extérieur, c'est ça ?
Oui, aujourd'hui c'est le jour de l'art de la table et je vous propose de mettre en scène la table d'été entre pique-nique chic et déjeuner traditionnel du dimanche, ambiance plutôt barbecue et épis de maïs grillés.
On adore ça. Vous restez bien avec nous Estelle parce qu'on va commencer par la chronique d'Anouk Garnier. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui, avant de passer à table, on va déjà se bouger un petit peu, hein, comme d'habitude. Ça ressemble à un instrument de torture ce que vous avez amené aujourd'hui, c'est le...
C'est le kettlebell. Ouais. C'est un outil donc, de sport, de fitness hein, et je le trouve magique parce que vous pouvez l'emmener partout. Enfin,
nous le décrire déjà pour les auditeurs.
C'est une espèce de... On dirait un boulet de canon. Boulet de canon et avec une poignée. Voilà. Alors celui-là fait 12 kilos. Attention Julia.
Oui,
voilà,
ça a l'air
très
lourd,
attention.
Hein.
Alors en fait, c'est un outil que vous pouvez vraiment emmener partout. Vous pouvez travailler plein de choses avec.
Vous pouvez travailler tout votre corps.
C'est un peu vous emmener votre salle de fitness avec vous, en fait, avec cet outil. Voilà.
Voilà, mais c'est ce truc-là, c'est, donc une poignée, c'est en quoi ? C'est en caoutchouc ?
C'est de la fonte, c'est de la fonte. Donc en fait, c'est vraiment un outil que vous pouvez garder à vie.
Il y en a plus petits, parce que 12 kilos, c'est lourd. Hein.
Oui, 12 kilos, il est assez lourd. Alors vous avez ça commence à 4 kilos, je crois. J'ai vu des bébés, petits bébés.
Ah oui ?
Et ça monte de 4 en 4 normalement. Ouais.
On dit un ou une kettlebell ?
Alors certains disent une. Ce que je dis souvent, c'est dis ce que tu veux, mais tant que tu t'en sers bien, ça me va. Pour les intimes, on l'appelle le KB.
On va dire ça.
Le KB.
Et vous l'utilisez ou
ouais, je l'utilise énormément dans mes entraînements de force. J'utilise aussi avec mes clients et je donnais même des cours de kettlebell. Et comme j'en avais plein autour de moi, les gens disaient que c'était mes mignons. Vous voyez comme dans moi, chez mes chats. Voilà.
D'où ça vient ce kettlebell, ce KB.
Ça vient, à la base, ça vient de Russie. Ils l'utilisaient énormément dans leurs entraînements de force. Même, j'ai lu dans des écoles, mais depuis les années 1800, hein, donc c'est assez ancien. Et vous avez un monsieur russe, Pavel Tsatsouline, qui l'a intégré dans la préparation physique aux États-Unis, dans les équipes professionnelles de sport. Et il a même créé son école de force, qu'il a appelée Strong First, où vous faites des stages pour développer la technique avec le kettlebell et les méthodes.
J'en ai vu dans du crossfit, moi.
Oui, effectivement. Et vous avez deux styles de kettlebell. Plutôt dans le crossfit, ils appellent ça, c'est un peu du soft style. C'est-à-dire que le but, ça va être de travailler longtemps. Mmh. Donc, dans le côté endurance, il y a même des compétitions juste de kettlebell d'endurance.
Mais elles sont moins lourdes.
Alors, elles vont être différentes. Et vous avez aussi une méthode plutôt à la russe. Donc, c'est eux qui l'ont amené. C'est une bonne méthode qui s'appelle le hard style, où c'est beaucoup plus strict. Mmh. Et le but, c'est d'avoir une qualité extrême de mouvement. mouvement et développer
moi,
la force.
Anouk, vous savez à quel point je suis précautionneuse avec le sport. Je sais. Et j'essaye de, je veux pas que les gens se blessent. C'est très important. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. C'est pas dangereux quand même parce que ça a l'air lourd cet outil.
Alors c'est lourd, mais on peut, comme je vous ai dit, il y a plein de poids différents. Donc il faut simplement avoir les bonnes techniques et puis faut adapter le poids à l'exercice que vous faites et puis à votre niveau de force tout simplement.
Oui, parce que là je l'ai pris celle de 12 et franchement j'ai pas dû serrer assez les abdos. Qu'est-ce qui
ça vous a fait quoi franchement?
Julie,
ça veut dire
pas échauffée.
Je me suis pas échauffée, c'est un peu lourd.
Ouais, voilà. Ah, c'est lourd.
Ouais, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Après honnêtement j'ai eu des mamies dans mes cours de kettlebell. Ouais. Et il y avait pas de problème.
Estelle, ça vous tente vous ce poids là, ce poids russe?
Oui carrément. Moi je suis partante en plus. C'est plutôt joli.
Elle le verrait bien en déco.
J'en ai plein chez moi. C'est dans ma déco en fait.
Et certains exercices ont l'air difficiles. Comme tout le monde peut vraiment travailler. Vous disiez
oui, alors,
les mamies.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a le petit inconvénient, c'est qu'il faut un minimum de technique, il faut des bonnes bases pour bien travailler.
Donc un bon coach, quoi, pour
voilà,
démarrer.
Et c'est ce que j'allais vous dire. Et il y a beaucoup de coachs qui sont pas du tout formés à utiliser cet outil. Donc il faut trouver les bonnes personnes. Vous avez Strong First en France qui a développé aussi des stages. Donc si vous avez envie vraiment d'utiliser cet outil, pourquoi pas aller suivre un petit après-midi pour avoir les bases.
Mais je peux travailler tout le corps?
Oui, Julia. Vous pouvez faire déjà. Il y a deux styles d'exercices, on va dire. Les exercices un petit peu classiques, simples.
Allez-y,
comme le squat.
On va commencer par ça. Ah, ouais, le simple.
Le squat, le simple.
Redécrivez un squat pour ceux qui ne sauraient pas encore.
C'est vous accroupir et vous redresser. Et vous pouvez simplement prendre le kettlebell. Il est assez pratique puisqu'il a cette poignée en fait.
Et qu'est-ce qu'on bosse là alors?
Vous pouvez travailler donc le bas du corps avec le squat, les cuisses, les fessiers et même le fait de prendre le kettlebell, ça active vos abdos.
Hey. Parce qu'on serre la sangle abdominale.
Mais on prend quel poids justement?
Alors, vous pouvez commencer avec un poids de 4 kilos, tout simplement, et puis après, progresser avec 8 kilos, etc. Si vous faites les jambes ou plutôt le bas du corps, vous allez prendre plus lourd, peut-être 8 ou 12 kilos. Si vous faites les bras, par exemple, si vous poussez le kettlebell à un bras vers le haut, ça va être plus difficile.
Ça existe
donc, en
2 kilos parce que moi, je
non,
me dis que non,
c'est... Non, j'en ai vu en peluche pour les enfants, mais.
Et bien, alors, je crois aussi qu'on peut le déplacer d'un point
c'est
à
ça.
L'autre.
Vous avez à. Ouais, vous avez un très bon exercice qui va renforcer vos abdos, c'est vous prenez le kettlebell dans une main et vous vous déplacez avec. Et plus il va être lourd, plus vos abdos vont être engagés. C'est très intéressant pour apprendre à protéger la colonne.
Je redécris pour nos auditeurs qui arriveraient en route, un kettlebell, c'est donc une boule comme un boulet de canon,
avec une
fonte, avec une poignée. Voilà,
tout simplement. Et vous avez aussi les exercices qu'on va appeler balistiques, où on va utiliser un mouvement de balancier, comme Julia l'a fait un petit peu tout à l'heure. Vous allez lancer le kettle devant, sans le lâcher, le ramener entre les jambes. Ça va s'appeler un swing, mais il va falloir un petit peu plus de techniques et maîtriser d'abord les exercices simples comme le soulevé de terre, donc juste soulever la boule du sol avant de pouvoir passer en
bien
balistique.
Voilà. Et quoi, en combien de minutes je peux avoir?
Alors,
une bonne
moi,
séance
je vous fais swinguer. Allez, Julia, en 10 minutes, je vous fais swinguer là, les filles, dans le studio.
Ah, ça me suffit, 10 minutes.
10 minutes, ça va.
Plus, c'est bien.
10 minutes pour swinguer, tranquille.
Ouais. Même 5, hein,
oui, même 2. Merci beaucoup, Anouk. Merci pour ce point complet sur ce petit outil sportif qui a donc des tas de bienfaits. On va passer maintenant à table. Enfin, on va déjà la dressé dans les règles de l'art grâce à vos bons soins, Estelle Quilici. On vous écoute.
Alors aujourd'hui, on va parler d'art de la table et on va dresser une table d'été. C'est la table de pique-nique chic. Ambiance barbecue, épis de maïs grillés.
Ce que vous aimez déjà, je crois, c'est qu'avant de parler de table, c'est de penser à une petite attention pour chacun. Hein, sur la table, c'est important.
En fait, dresser une table, c'est comme offrir un cadeau à ses invités.
Donc on met quoi, par exemple?
Alors,
un petit cadeau?
On prend tout ce qu'on a sous la main. On peut
Inès,
couper.
Inès, pardon. Anouk, elle propose déjà d'offrir son kettlebell.
Ouais, voilà, mettez-moi un
pourquoi
kettle
pas,
sur
mais
mon
ça,
endroit.
C'est pour l'exercice. Non, une petite attention pour chacun. On va couper une petite branche d'olivier. On va couper une petite rose dans le jardin. Et on n'hésite pas, en fait, même à personnaliser jusqu'à mettre le nom de chacun des invités qu'on aura écrit nous-mêmes.
C'est chic, c'est ça.
Mais c'est chic et c'est sympa parce que c'est toujours un petit souvenir qu'on emmène avec nous et c'est ça qui est intéressant.
Bon, est-ce que... Oui,
oui. Non, mais moi, je n'ai pas les règles, en fait, pour dresser une belle table.
Oui, ben, donc allez-y, parce que c'est qui l'a dressé? C'est votre mari qui l'a fait?
Mais non, mais personne. Moi, je ne dresse rien du tout. Je prends une assiette, je prends un couteau, une fourchette et je mets des trucs à l'intérieur.
Est-ce
non,
que vous mettez des fleurs déjà?
Non, jamais.
Bon, alors, voilà,
les fleurs,
ça, c'est la première règle. Non, mais il y a quelques trucs assez faciles qui marche à tous les coups, ça coûte pas cher et franchement ça fait la différence. Déjà vous fleurissez votre table.
Alors, on fleurit comment?
On fleurit, on prend plein de petites coupelles, c'est-à-dire des petits récipients assez bas, des petites tasses, des petits pichets à lait, des soliflores, et on coupe un peu. Vous savez, je suis sûre que vous avez toujours des bouquets qui sont un peu fanés chez vous.
Complètement.
Au lieu de les jeter, vous prenez vos petites fleurs, vous les coupez à ras, vous les faites flotter dans des coupelles, vous les multipliez sur la table et c'est vraiment joli. Et en fait, il n'y a rien de pire que d'avoir, vous savez, le gros bouquet monumental en plein milieu de la table.
Mais qui vous évite de discuter,
évidemment.
Donc
évidemment.
De la fleur, mais bas. Oui, basse, et puis des petits bouquets dans des petits, comment vous dites, les petits récipients,
petits pichets.
Des petits pichets à lait, des petites tasses,
comme ceux
des
petits soliflores. C'est très joli, hein, voilà. C'est vraiment très joli.
Et c'est vraiment des fleurs qui étaient fanées ce matin chez moi.
Et dites-moi, en termes de couverts, ça c'est important aussi les couverts, on ressort la vieille vaisselle de mamie ou pas?
Oui, on ressort la vieille vaisselle de mamie.
Moi, je crois que j'ai un vieux service en argent que j'ai jamais ouvert.
Mais il faut réutiliser. Il y a rien de plus joli que les couverts en argent. Donc, on les ressort, on les remet dans les tiroirs de la cuisine.
Mais pourquoi on n'y pense jamais? Parce qu'on ne les voit pas. Moi, ils sont au fond d'un placard.
Mais
en fait
c'est ça, on les voit. Parce qu'en plus, un, c'est joli. Et deux, du coup, on les utilise chaque jour. Et il n'y a rien de plus chic quand même que de dîner ou de déjeuner avec des couverts en argent.
Oui, donc, mais pourquoi on les voit passer, Mélanie? Vous n'avez pas un truc pour
les nettoyer?
Ouais.
Bah, c'est vous la reine du nettoyage.
Oh, oui, c'est vrai. C'est souvent pour ça qu'on ne les utilise pas, parce qu'ils ne sont pas nets. Vous êtes
alors,
d'accord?
Il faut y consacrer un petit peu de temps, mais pas plus de deux fois par an. Hein, Julia, ouais. Vous achetez un produit spécifique et vous les frottez. C'est assez simple et assez rapide.
Bon, je viendrai le faire chez vous, Julia. Merci. Pour les verres, on fait comment? Parce que alors, moi, j'en ai plus genre 6 quand je fais un repas. Pas si j'ai que des verres différents en fait. Mais je crois que c'est la mode.
Ça tombe bien parce qu'il faut dépareiller ces verres, Mélanie, en fait.
On met des anciens, des verres à eau,
tout. On met de tout et on met des anciens, des couleurs différentes. C'est très joli d'ailleurs pour les verres à eau d'avoir plein de couleurs différentes sur la table. Et puis vous savez, on peut même racheter en grande surface ces verres Duralex qu'on avait quand on était à la cantine et on se demandait quel âge on avait.
T'as quel âge,
toi? Et on a tous ce souvenir.
J'ai 8 ans, et toi?
Et du coup, c'est un peu d'émotion aussi sur la table.
Et pour les budgets un peu plus élevé, il y a un nouveau service, vous m'avez dit ça en préparant cette chronique, qui permet de personnaliser les verres. C'est quoi,
ouais,
ce truc-là?
Moi, je trouve que c'est vraiment une belle attention, parce que on peut l'offrir, c'est un peu un cadeau d'exception. On peut faire graver sur nos verres quelque chose, donc ça peut être le nom d'une maison, le nom de notre maison de campagne, ça peut
c'est
être...
chic. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, sur vos verres personnalisés? Elle aimait les massages.
Non, je sais pas, très simplement Julie Vignali.
Oh, c'est très
je vais mettre des initiales, c'est super joli et c'est un beau cadeau à offrir. En
du
fait.
Rose, Julia, comme dans votre agenda.
Non, mais ça
un petit point
beaucoup.
Rose.
Vous voulez m'offrir ça?
Oui, je vais réfléchir.
Alors, ça, vous pouvez le faire chez monogramme.fr et vous pouvez le faire avec ce que vous voulez en fait.
Ça coûte environ 40 grammes.
Ouais. 40 euros.
Alors, avec l'arrivée de l'été, les températures qui grimpent, quel est votre thème? Quel est le thème de table de l'été que vous allez nous proposer?
Ah, bah, c'est le pique-nique chic. Bah, c'est vraiment la table d'extérieur. C'est pas parce qu'on fait un barbecue qu'on ne fait pas attention à l'art de la table. Donc on reprend les principes de base que je viens de vous donner.
Il faut une table
déjà. On va
déjà.
Un peu plus loin, ouais. Et puis il faut qu'elle soit joyeuse parce qu'on est dehors et c'est l'été. Donc vous pouvez prendre, vous savez, les fameuses tables de pique-nique qu'on trouve sur les aires d'autoroute.
En bois avec les bancs attachés.
Ouais.
Là,
ouais. Et ben écoutez, c'est les moins chères du marché. Vous
elles
les peignez dans un très beau vert gazon, dans un beau bleu lagon. Franchement, elles auront une allure folle et c'est vraiment très chouette. Il y a aussi la table de cantine, vous savez, avec les pieds pliables. Et alors, on peut les napper, c'est facile, ça fait le job, ça se range très facilement s'il y a un petit coup de vent. Et ça coûte une centaine d'euros.
Et justement, vous disiez napper, donc côté nappe, on en met une, on n'en met pas? Si oui, est-ce qu'on peut utiliser de vieux draps? Je ne sais pas, c'est quoi?
Oui, moi je suis pour napper. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que les cotonnades, les lins, les damassés. Donc il faut napper ces tables. Et c'est vrai qu'on peut aussi réutiliser les vieux draps en lin, vous savez, monogrammés. Mmh. On les teint avec des produits qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et puis on mise sur des couleurs un peu fluo, un peu acidulées. Et puis ce qui est chouette, c'est que ce sera hyper personnalisé. Ce sera votre couleur unique en fait.
Et alors on met de la vraie vaisselle ou des assiettes en carton? Est-ce qu'il y a une règle en été?
Non, très honnêtement.
Il y en a des belles en carton quand même.
Oui, c'est ça. Le plus important, c'est que ce soit joli et harmonieux. Il existe par exemple des super assiettes en carton chez My Little Day. Franchement, mention spéciale pour ce site internet où il y a de très jolies copies de d'assiettes anciennes vintage,
joli,
mais qui
vrai.
Sont en carton. C'est vraiment très sympa pour un pique-nique.
Et sinon, il y a la mélamine. Vous
le
avez
mélaminé.
Dit, le mélaminé.
Le mélaminé qui est une.
Presque.
Qui a eu un peu son heure de gloire dans les années 50-60, qui est une sorte de résine. Et tout l'intérêt, en fait, c'est que c'est incassable, que c'est super pratique pour l'extérieur, qu'il existe plein de coloris différents, on mélange les couleurs et il y a même des grands designers comme John Derian que j'adore, qui est américain, qui en a fait une collection presque haut de gamme avec des très jolis motifs anciens chinois et là on peut faire de très jolies tables.
Bon, ben on est parfait là, c'est bon, merci beaucoup Estelle, la table est bien dressée grâce à vous, il ne nous reste plus qu'à nous installer et à déguster maintenant, ça tombe bien, il est presque midi et justement bien fait pour vous, ben c'est fini pour aujourd'hui, pas d'inquiétude, on sera de retour lundi à 11h. Julia, lundi de quoi parlera-t-on?
Eh bien, on va se poser cette question. Peut-on s'adapter tout en restant soi-même ? L'adaptation, c'est un sujet d'actualité. Nous n'en avons jamais autant entendu parler que ces dernières années. Nouvelles technologies, marché du travail, mesures sanitaires. Bref, on va voir comment faire au quotidien face aux changements pour ne plus les subir.
Vaste programme. En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Alors, quel est le programme ?
Le programme d'Europe Midi, Mélanie, bonjour à tous. Eh bien, on va parler du Covid. Le Covid, 80 000 cas ces dernières 24 heures. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que, selon vous, il faut remettre le masque ? Est-ce qu'il faut le rendre à nouveau obligatoire dans les transports en commun ? On en parle dans Europe Midi. Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. On va parler également pouvoir d'achat. Il y a des négociations actuellement. Elisabeth Borne s'entretient avec les présidents de groupe à l'Assemblée. Le texte sur le pouvoir d'achat est en préparation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous allez adapter vos vacances, tiens, en fonction de la hausse des prix ? Vous appelez également vous appelez toujours le 3921 et vous en parlez également à l'antenne. Voilà, on sera donc avec vous et avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise, et avec Marie Lebec, qui est députée LREM. À tout de suite.
Merci beaucoup Romain. À tout de suite.